en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour cette invitation à laquelle je suis d'autant plus sensible que le sujet que vous m'aviez proposé m'avait dans un premier temps embarrassé. Et ayant réfléchi, j'ai tenté de le conceptualiser et j'espère y être arrivé. Mais j'aime bien qu'un sujet vous déplace et de l'extérieur vers l'intérieur. Politisation éthique de la morale. C'est un lieu commun de dire que la morale n'a jamais fait bon ménage avec le politique, qu'elle regarde parfois avec mélancolie, comme le dit l'académicien Alain Duhamel, pas plus que la raison d'État n'a été embarrassée par des considérations éthiques. Comme le disait René Raymond, la morale ne sauve pas une politique malheureuse. La politique, ou plutôt le politique, a toujours affirmé son droit de s'affranchir du contrôle de l'éthique, tout en reconnaissant évidemment l'existence de règles morales et d'un ordre éthique nécessaire pour les citoyens. Reconnaissance qui échappe au régime totalitaire, même si le communisme a eu pour spécificité de confondre sa finalité de renversement de l'ordre du capitalisme libéral au nom de son immoralité décrétée et son appropriation opportuniste de la moralité politique au bénéfice de l'ensemble des citoyens. Cette schizophrénie politique et morale, au moins occidentale, car cette confusion pour les régimes totalitaires se passe de commentaires superflus, ne s'accompagne pas, bien évidemment pour autant, d'indifférence pour ce qu'on appelle les bonnes mœurs. En dehors des lois qui règlent les comportements sociaux déviants sur le plan criminel ou fiscal, notre pays a longtemps laissé cette gestion aux religions, aux églises. De leur côté, les églises, au moins chrétiennes, ont mis en pratique l'enseignement du Christ. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Gentleman agrément donc que celui de la raison d'État d'un côté et les règles morales destinées aux citoyens de l'autre, en grande partie encouragées par l'Église. Mais le caractère archaïque, avec le recul de 70 ans, d'un ordre moral et du culte des valeurs morales de Vichy, a contribué, à mon sens, par son artifice, à déshonorer le concept de morale, qui peu à peu s'est assimilé justement à un ordre politique qui demande à la loi et à la justice de fonder la répression de la licence des mœurs. Ce qui conduit la gauche à revendiquer la liberté de la vie privée selon une morale entrevue par, je pense, la lucarne de ses seules compromissions. Soudain, à la fin du XXe siècle, tout change. Le mot éthique se substitue dans la société, dans l'univers social, au mot moral vieillissant, même si les mots ethos en grec et mores en latin sont en fait synonymes. Mais l'éthique apparaît plus comme une revendication non normative d'une action perçue comme bonne. La morale comme une norme fixée de l'extérieur par une instance sociale ou religieuse non inscrite dans une temporalité. L'éthique ne revendique pas la temporalité. La morale la revendique. Si la politique, alors, pouvait s'affranchir de la morale considérée comme assez indifférente aux conditions de vie réelle, elle ne peut s'affranchir aussi facilement de l'éthique. D'où, et c'est le thème de ma conférence, l'appropriation croissante du contrôle de son usage pour ne pas se trouver sous le double feu de la critique d'adversaires politiques ou de redresseurs de tort. Le discours moral, en effet, contemporain, fait fuir. Quand le discours éthique intimide et fascine. Les citoyens eux-mêmes, et c'est toute l'ambiguïté, s'approprient ce discours en exigeant désormais que leurs représentants ne se considèrent pas comme soustraits à l'appréciation morale. Parce que derrière le concept éthique demeure caché celui-ci de morale, même s'il est occulté. Cette politisation de l'éthique, thème que vous m'avez proposé, est en effet une nouveauté absolument fascinante. Quel est le rôle des déclarations de Nuremberg, fonds baptismaux de l'éthique médicale? L'éthique médicale s'est constituée à partir de la déclaration de Nuremberg. Des diverses déclarations de droits de l'homme, des chartes, des droits d'ingérence au nom des principes supérieurs, démocratie, de la démocratie dite d'opinion, du développement des réseaux sociaux, des progrès scientifiques et technologiques qui déstabilisent des certitudes jusque-là immuables. Probablement, tous ces éléments interviennent dans ce changement de vocabulaire éthique en lieu et place de morale. Mais pour ma part, je ne traiterai que du domaine scientifique en raison de mon incompétence sur les autres sujets. Mais ce seul domaine scientifique laisse bien perplexe sur l'usage politique de l'éthique. Que signifie en effet, et ça m'a toujours paru très étrange, de désigner des lois du nom de bioéthique? Nous n'avons jamais eu dans le corpus législatif français des lois dites de morale. Alors que l'éthique est justement l'activité humaine qui est tout, sauf normative. Demander à l'éthique d'aider à définir un cadre légal est à la fois tout à fait légitime, mais contradictoire avec sa finalité qui est justement de remettre en cause sans cesse tout statut au nom des changements existentiels qui s'opèrent dans la société. Le politique, au lieu de demander un statut à l'éthique, devrait lui demander un éclairage sur les enjeux plutôt que de s'en servir pour encadrer par des lois les conduites à tenir. Ces lois, comme vous le savez, dites de bioéthique, concernent depuis 25 ans à peu près la greffe d'organes, l'usage des données génétiques et l'assistance médicale à la procréation. Je me limiterai au dernier sujet pour ne pas être trop long. L'évolution rapide des lois concernant l'assistance médicale à la procréation, toujours en retard nécessairement sur l'évolution rapide des technologies concernant le vivant, en offre un exemple tout à fait caricatural. Car étant les seules lois initialement soumises à une obligation de révision quinquennale en fonction des avancées technologiques, le politique, dans sa dernière révision, a peu à peu perçu les inconvénients de cette obligation qui fragilise toute loi. Une loi qui est prévue, révisable dans 5 ans, perd de sa force. D'autant plus que, entre 2 révisions, les décrets n'ont pas le temps d'être tous publiés et puis que la science n'attend pas 5 ans pour bouleverser l'existant. Mais le politique n'aime pas être pris au dépourvu. Il a donc supprimé, en 2011, cette obligation de révision, retrouvant ainsi sa liberté de jugement, mais pas l'éclairage éthique nécessaire. Ainsi, l'assistance médicale à la procréation, qui était réservée aux couples hétérosexuels, existant depuis plus de 2 ans. Le caractère normatif de plus de 2 ans a disparu avec la nouvelle loi. Le couple est ainsi devenu une simple virtualité qui est réduite à la demande expresse d'un homme et d'une femme. L'absence de durée offre ainsi des possibilités opportunistes infinies qui se rapproche de la procréation naturelle, à la seule différence qu'elles sont prises en charge et financées par l'État. Mais l'âge des couples, en particulier celui de l'homme, on sait que les femmes la loi le fixe, je crois, 45 ans. Mais l'âge de l'homme est une vraie question éthique évacuée. L'État doit-il aider un père de 85 ans, qui ne le pourrait pas naturellement, à procréer ? Alors que l'on connaît parfaitement les risques pour l'enfant d'une procréation paternelle à cet âge. De même, faut-il aider une femme à accueillir un embryon congelé, issu des gamètes de ce couple, lors de l'agonie de son conjoint qui va mourir dans les jours ou les semaines, alors que le transfert d'embryon post-mortem est interdit, mais la loi ne dit pas que l'interdiction concerne l'agonie. Autrement dit, la loi dit que le père doit être vivant au moment de cet accueil, il ne dit pas qu'il doit être encore vivant ou en bonne santé. La loi ne dit donc rien dans l'un et l'autre cas. Elle fixe des normes françaises qui ont la particularité d'être totalement indifférentes à une transcription européenne et ne sont pas éthiques au sens propre du terme, mais médicales. D'ailleurs, la Sécurité sociale, embarrassée par ces situations, rembourse partiellement des inséminations pratiquées hors de France, en Belgique, en Espagne, pour sauvegarder quelques principes au détriment du réel. Les droits de l'embryon congelé, dépourvu de projet parental, à ne pas être utilisé pour la recherche, ont longtemps fait oublier l'absence de droit d'un fœtus à ne pas être avorté au 9e mois, quelques minutes avant sa naissance, en raison de la découverte au dernier moment de malformations. Mais la peur du politique d'aborder les questions si tendues dans notre moment contemporain de l'interruption volontaire de grossesse, même si la France n'est pas actuellement confrontée à cette question espagnole, l'empêche d'aborder les questions éthiques difficiles de l'interruption dite médicale de grossesse d'un fœtus qui serait un nouveau-né quelques minutes plus tard. Et dans ce domaine, il faut savoir que la France et Israël sont les seuls pays au monde à permettre l'interruption de la vie d'un fœtus quelques minutes avant sa naissance. C'est un féticide qui n'est pas contredit par la loi, qui n'a pas d'existence légale, alors que si le nouveau-né, en raison de malformation, est tué à sa naissance, c'est un meurtre. La vraie question éthique serait quel droit a l'enfant à naître ? Mais cette question si difficile comporte le risque permanent d'une remise en cause de l'interruption volontaire de grossesse, considérée à juste titre comme une liberté, non pas, comme on le croit trop souvent, de la libre disposition du corps de la femme, par elle-même, mais comme le droit d'être aidée médicalement à interrompre une grossesse, plutôt que de risquer d'en mourir. Le lien incestueux entre politique et éthique doit donc être canalisé sur les seules questions qui ne mettent pas en jeu le consensus social. En un mot, les lois, au nom de l'éthique, font l'impasse sur les questions éthiques brûlantes, une sorte d'alibi éthique. Toutes ces questions sont évacuées, alors que la vraie question serait quel souhait privé menace le vivre ensemble ? Par exemple, le don bénévole, anonyme et gratuit de gamètes, n'est-il pas menacé par la possibilité d'accès des couples homosexuels à ce don ? Les donneurs seront-ils indifférents au destin de leurs gamètes ? Et on a assisté depuis quelques mois à une diminution des donneurs, craignant éventuellement que leurs dons soient accessibles à des couples homosexuels. Ou encore, quelle exploitation de l'autre permet de faire advenir un progrès scientifique ? Autre sujet, que signifie la création politique en 1983 du premier comité consultatif national d'éthique au monde, le CCNE, à la demande de Jean-Pierre Chevènement, Après la naissance, par fécondation in vitro d'Amandine, qui doit avoir 31 ans ces jours-ci, comme si soudain, l'effroi du politique était lié à son inquiétude d'avoir un corpus de loi totalement inadapté à la nouvelle réalité de l'humain. Le CCNE s'est pris au jeu en rendant depuis 30 ans des avis sur l'ensemble des questions concernant le vivant humain. Avec cette ambiguïté d'avoir à répondre aux questions du politique, souvent pour la rédaction d'une loi concernant ces sujets. Le CCNE n'a aucune légitimité de représentation nationale. Sa seule expertise est son mode de fonctionnement, fondé sur une éthique de la discussion, de la responsabilité, et non sur une éthique de conviction. La morale, elle, n'est ni de conviction, ni de responsabilité. Mais quand le CCNE sort de son territoire, purement scientifique, dans un avis qui, par exemple, analyse l'usage des données génétiques destinées à vérifier chez un migrant la parenté de son enfant avec lui-même, inscrit dans la loi, ce texte a fait l'objet d'un avis du CCNE qui posait la question jugée impertinente de la discrimination en cause sur le plan éthique. Ou alors quand le CCNE s'est insurgé contre les conditions indignes de l'emprisonnement en France, contre les dérives de financement de certains soins hospitaliers, l'indifférence à l'accueil des autistes dans notre pays qui doivent se rendre pour un grand nombre d'entre eux en Belgique. Le CCNE est alors accusé de sortir de son champ de compétences. Il n'est pas là pour aborder les questions de société en général, mais pour se limiter à celles que pose l'usage des biotechnologies et des progrès de la science. Mais cette protestation agace le politique, qui considère alors la réflexion éthique comme un abus de pouvoir du CCNE. Je me souviens du désaccord absolu d'un ministre de la Recherche devant notre avis qui demandait que les gènes ne puissent pas faire l'objet d'un brevet. Nous menacions l'avenir de la recherche française. Intéressant de voir que les États-Unis viennent d'interdire, il y a quelques semaines, la brevetabilité du gène. Autrement dit, la réflexion éthique ne doit pas déplaire au pouvoir politique, mais le conforter. Et quand la demande d'une société est réputée de l'ordre de l'éthique, le CCNE est là pour y répondre. Mais ses limites sont fixées et ses autosaisines sont souvent plus ou moins bien vues. Admettre d'ailleurs le mot bioéthique, c'est un mot étrange, venu des États-Unis comme s'intéressant seulement à l'éthique du vivant, au bio. C'est très étrange, car c'est à un vivant seulement humain, et je dois cette réflexion à mon ami le président Jean-Claude Amezen, à un vivant seulement humain qui s'adresse, pas à un vivant animal ou végétal. Il y a en éthique, pour la politique, de bio que l'humain. Parce que aborder le bio non humain exposerait alors à des questions autrement plus importantes économiquement que la façon simple de concevoir un enfant. Le CNE, par exemple, n'a jamais abordé la question des OGM ou du droit des animaux, ou lorsqu'il l'a été en la personne de son président en 1999, à la demande du Premier ministre Lionel Jospin, il a établi un rapport à visée éthique sur la culture des OGM, dépassant les pugilats habituels dans notre pays des experts et des citoyens. Et ce rapport a fini comme finissent habituellement les rapports, à la trappe. 15 ans après, en 14, ce rapport qui se voulait éthique aurait sans doute évité bien des échecs politiques. L'éthique s'introduit plus que la morale dans le débat politique droite-gauche. La droite en fait un enjeu conservateur des traditions, la gauche un enjeu des libertés individuelles au prix du renversement de ces traditions, ce qui suscite une éthique de droite, une éthique de gauche, une éthique rationaliste, voire une éthique de l'anarchisme qui prône une liberté totale. Le CCNE n'a heureusement pas été contraint de donner un avis pour la loi sur le mariage pour tous. D'ailleurs, le mot « mariage » en passant signifie « union des gamètes ». Mais sur les possibilités offertes par la loi d'accès à la procréation des couples homosexuels, son avis sera jugé déterminant. Quelle responsabilité ! Sa fonction pourtant n'est pas de prendre parti, mais d'explorer les enjeux, masqués ou non, les impasses, les incidences pour l'ensemble de la société. Il n'est pas là pour donner un blanc-seing ou censurer. La liberté du CCNE réside parfois dans son insolence, sa capacité d'interroger la loi, laissant aux politiques le soin d'en tirer les conséquences. C'est sa noblesse. Sur la fin de vie, le CCNE est interrogé, réinterrogé, voire sommé. Son avis sera important. S'il suit les propositions politiques, il sera accusé de devenir la courroie de transmission du politique. S'il se met en travers, il sera accusé de conservatisme par un gouvernement de gauche ou de progressisme par un gouvernement de droite. D'où la bonne réponse, hétérogène, du CCNE, sinon hétérodoxe. Lors du renouvellement, il y a quelques mois, d'un certain nombre de membres du CCNE, la société civile, certains médias, certains responsables politiques ont protesté contre les choix de nomination par le politique qui pouvaient donner le sentiment d'un choix orienté en fonction d'intérêts opportunistes. Je peux garantir que les personnalités nommées ne l'ont pas été en fonction de choix politiques opportunistes. Mais si le politique demande aux membres du CCNE de le sortir d'embarras, il tombe alors dans le piège du choix orienté de ses membres, ce qui réduit d'autant la crédibilité de l'institution. Mais peut-être le CCNE aurait-il dû aller plus loin. L'euthanasie n'est ni éthique, ni non éthique. D'autant plus que les mots, comme le dit Claude Simon dans Orion aveugle, à la résonance un peu fanée comme la couleur des affiches, autonomie, dignité, vulnérabilité, liberté, dépendance, valeurs même, seront utilisées de façon partisane en faveur de la mort choisie ou pour s'y opposer. Car l'éthique est plus que toute autre activité humaine prise au piège des mots, qui finissent par être des vecteurs plus de l'étiquette éthique que d'une véritable pensée. L'éthique, c'est ce qui est l'acceptation de l'autre avec la remise en question permanente de ses convictions au regard justement de l'autre. Ce n'est pas être nulle part, ce n'est pas ne pas avoir de conviction, c'est remettre en question à la lumière de l'autre ce qui est en jeu dans son propre pouvoir par rapport à ses convictions. Ça ne veut pas dire qu'entre l'ignoble et le noble, entre l'insupportable et le supportable, il n'y ait pas la volonté d'inscription d'une idée de l'homme, mais méfions-nous d'une éthique comme usine à concept plus opportuniste que critique. Si l'euthanasie est un vœu de la plupart des citoyens, d'après les statistiques, l'éthique serait alors une façon de résister à donner des réponses abusivement qualifiées d'éthique aux questions cruciales de société. Frédéric Worms, qui est professeur de philosophie à l'École normale supérieure, me disait il y a quelques semaines que l'éthique est un moment de surgissement, jamais figé dans son essence. Par exemple, en faisant émerger la torture comme l'envers du soin, elle pointe la dimension sociale et politique du soin en maintenant ensemble ce qu'on appelle le cure et le care. Nous n'avons qu'un seul mot en français qui est le soin. Les anglo-saxons en ont deux, le cure qui est le soin curatif, le care qui est le soin sinon palliatif, qui est la sollicitude, l'attention. Sans que l'un empiète trop sur l'autre. Le risque est alors en focalisant au contraire le débat politique sur une binarité éthique, de réduire le soin à des slogans légaux ou illégaux, au détriment de la relation au malade, de ses droits, de sa liberté et de la perte de sens du soin. La césure excessive, par exemple, qui a été, au fond, l'antienne de ce rapport au président de la République durant l'année 2012, césure entre soins curatifs et soins palliatifs, est une des sources, à mon sens, de l'inquiétude citoyenne, comme s'il fallait attendre d'avoir à mourir dans les 15 derniers jours, comme s'il fallait attendre la fin de sa vie pour que le care hospitalier entre en jeu. La question éthique est le tressage permanent, nécessaire entre les deux, entre le cure et le care. Le soin est avant tout éthique, avant d'être curatif ou palliatif. Ce qui est devenu le risque majeur de l'éthique au sens politique du terme est son institutionnalisation, son instrumentalisation dans tous les sens du terme. Ligne de conduite, charte, accréditation, éthiciens même, qui deviennent autant d'enjeux de pouvoir et non la possibilité d'interroger et de penser la complexité. La société du spectacle de Debord devient peut-être la société de l'éthique à tout vent. Les conséquences en sont multiples. Tant que l'éthique réduit son espace aux biotechnologies concernant le vivant, le marché se soustrait ou se libère du jugement, de la morale ou de l'éthique. La France, par exemple, est le seul pays qui interdit la marchandisation du vivant, à peu près le seul, par souci de protection des plus vulnérables. Mais notre pays hésite bien souvent à affronter les questions éthiques graves concernant, par exemple, les marchés financiers. Car il sait ou découvre que le réel reste bien indifférent à la non-éthique de ces marchés, comme si l'éthique devait avoir un territoire d'intervention autorisé. La prudence des actions entreprises, certes avec une bonne volonté récente, n'est pas à la hauteur des enjeux éthiques. On assiste alors à la disparition des valeurs collectives auxquelles le sujet peut se référer. Le politique se sent moins concerné par des valeurs traditionnelles qu'il voudrait tenter d'aménager justement au nom de l'éthique, avec la tentation opportuniste, quelquefois, de la réélection. Les jugements généraux se perdent au profit d'outils d'ordre éthique incapables d'évaluer le poids des intérêts privés en conflit. La conscience du long terme se perd au profit du hic et du nonc. Le principe de précaution, par exemple, utilisé selon des géométries variables, est un principe aussi peu éthique que moral. Tantôt, ce principe est appelé à protéger la France des importations anglaises de viande bovine en raison du maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec des arrière-pensées économiques qui étaient bien au-devant. Tantôt qu'il est sommé de rester sourd aux inquiétudes des scientifiques concernant le risque cancérigène, pourtant avéré et prouvé, des particules diesel. La politisation de l'éthique conduit à la perte progressive de la notion d'intérêt général. Ainsi, dans un domaine qui m'est cher actuellement, où le président de l'Institut des données de santé est présent, Christian Babusio, dans notre pays, l'indifférence aux données réelles de santé pour penser les stratégies de santé publique du futur constitue, à mon sens, un manquement à l'éthique. Décider des stratégies sans données, alors qu'elles sont disponibles, est le comble d'un pouvoir aveugle. Ne pas les utiliser pour ne pas avoir affronté des lobbies divers est très irresponsable. On peut comprendre qu'à force d'opportunisme éthique, ce mot finisse par devenir un cache-sexe pour chaque parti qui s'en prévaut sans mesure. Pour conclure, Paul Ricoeur disait, j'ai eu la chance de le connaître et d'être influencé par sa pensée, vivre avec et pour les autres au sein d'institutions justes pourrait définir, à mon sens, une vraie politique éthique et donnerait plus de sens à la vie sociale. Mais une éthique procédurale et opportuniste actuellement développée et mise en œuvre anéantit ce projet. Plutôt que de demander à des règles éthiques de le protéger, le politique devrait s'interroger sur ses propres pratiques, sur ses finalités de courte durée sanctionnées par une élection, sur ses enjeux de pouvoir. En outre, à force de demander à l'éthique une protection souvent démagogique, le politique la confine à des domaines souvent sans véritable incidence économique ou stratégique majeure, car les véritables enjeux ne sont alors jamais clarifiés ni questionnés. Mais peut-être plus grave encore, Elle confère à l'éthique un statut, alors que celle-ci ne vit que de résistance au conformisme, résistance aux situations acquises et aux questionnements fussent-ils inattendus. Elle est là pour éclairer la complexité des problèmes, pour contribuer à la réflexion collective. Elle ne détient ni pouvoir, ni vérité, pas plus qu'elle est une expertise qui donnerait la voie à suivre. Résistance, surgissement, justesse, ouverture, contredisent, soumission, enfouissement, choix opportuniste, fermeture. Le politique, en confinant l'éthique à un vocabulaire qu'il s'approprie ou à des domaines jugés sans réelle importance stratégique, contribue au désenchantement, alors qu'il pourrait lui demander justement un éclairage permanent pour réenchanter le sens réel d'une action. Je vous remercie.